Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, des cocktails Molotov jetés dans deux voitures de police, des agents qui manquent de mourir brûlés vifs. 3 ans après cette agression à Viry-Châtillon, le procès s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises des mineurs, audience à huis clos. Ariane Grissel nous raconte la matinée au tribunal. Une invitée exceptionnelle, une prix Nobel d'économie sur France Inter, Esther Duflo, répond à nos questions. En quoi consiste sa méthode de lutte contre la pauvreté qui lui a valu le Nobel? Et pourquoi si peu de femmes économistes? Un miracle est-il encore possible entre Européens et Britanniques à propos du Brexit? Un accord cette semaine à l'occasion du sommet européen est-il possible? Michel Barnier faisait le point ce matin. Il met un peu plus la pression sur les Britanniques. Laïcité ouverte, laïcité stricte, la majorité est fracturée à propos des mamans voilées lors des sorties scolaires. Le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, dit le ministre de l'Éducation. Ces propos sèment la confusion, lui répond le député En Marche Aurélien Taché. Jean-Michel Blanquer demande à minima un rappel à l'ordre contre le député. La carte du Tour de France 2020 présentée ce matin. Bonjour Fabrice Rigobert.
Bonjour Bruno.
En direct du Palais des Congrès de Paris, qu'est-ce qu'on retient de ce parcours Fabrice?
Oh, de la montagne partout, des pentes raides, des coureurs souriants mais les yeux écarquillés pendant cette présentation à cause des 29 cols à escalader pendant 3 semaines, magnifique.
On verra cela, vous nous donnerez les détails tout à l'heure. Le Nord est oublié et déjà ça râle. Un député du Finistère dénonce un tour du sud de la France. Dans ce journal encore, 2 migrants irakiens retrouvés morts sur la plage du Touquet. Les tentatives de traversée de la Manche explosent depuis l'année dernière. La ville de Trèbes se reconstruit encore 1 an après les inondations. Quelles mesures de précaution pour éviter d'autres drames? Écoutez le maire.
Sur Trèbes, nous avons une petite trentaine de maisons qui vont être démolies et qu'il va y avoir des travaux sur le lit du fleuve où les berges vont être élargies, végétalisées.
Reportage complet tout à l'heure et ce matin, très gros coup de vent à Arles, Élodie Calac en parlait à l'instant. 13h30 sur France Inter, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Au menu aujourd'hui,
je reçois la biologiste Anna Soto. Elle a été la première à mettre en évidence l'impact des perturbateurs endocriniens sur notre système hormonal. On lui doit l'interdiction du bisphénol A dans les contenants alimentaires. Vous pouvez lui poser vos questions dès maintenant.
Au 01 45 24 7000, questions maintenant, l'émission à 13h30. France Inter jusqu'à 14h30, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Des policiers auraient pu mourir brûlés vifs ce jour-là, 8 octobre 2016, entrée de la cité de la Grande Borne entre Grigny et Viry-Châtillon dans l'Essonne. 2 voitures de police postées pour protéger une caméra de surveillance qui gêne les délinquants du quartier. Un groupe d'émeutiers jette des cocktails Molotov dans les voitures. Les policiers, à l'intérieur des véhicules, parviennent à s'extraire. Une des 4 était en train de prendre feu. 3 ans plus tard, c'est le procès. Procès de la sauvagerie ultime, dit un avocat de policier. On manque de preuves, répondent ses collègues de la Défense. 13 personnes devant la cour d'assises pour mineurs d'Evry. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
C'est là que vous êtes pour France Inter avec Christophe Papon. Ariane, audience à huis clos, mais un climat très particulier ce matin que vous nous racontez.
Oui, cette décision de huis clos a d'ailleurs été prise pour la sérénité des débats. Avant ça, on a pu observer le face-à-face dans la salle. D'un côté, 3 des policiers. La 4e n'a pas eu le courage de venir. Il fixe les accusés du regard. Certains des jeunes hommes le soutiennent, d'autres esquivent. La majorité d'entre eux contestent avoir participé à cette attaque. Le policier le plus gravement touché garde sa casquette. Il ne veut pas qu'on le voie, souffle un collègue. On aperçoit sous la visière les marques de brûlure. À ses côtés, sa coéquipière de l'époque, elle porte un polo police pour ce premier jour de procès. Dans la salle, de nombreux policiers venus soutenir leurs collègues. Certains en tenue, d'autres en civil, gradés ou non. Beaucoup de forces de l'ordre aussi ici, aux alentours et dans l'enceinte du palais de justice, par crainte notamment d'expéditions de représailles. Ce sont des témoignages d'habitants du quartier qui ont permis les premières interpellations. Certains enquêteurs qui ont officié dans le quartier sont là également. L'un d'eux confie à propos des accusés. Je les connais tous, je les ai tous interpellés un moment, surtout pour des vols avec violence. Aujourd'hui, c'est pour tentative d'homicide qu'ils comparaissent. Les accusés risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès doit durer jusqu'au 6 décembre.
Ariane Grissel en direct d'Evry pour France Inter. 3 ans après, la caméra de surveillance qui a tout déclenché est toujours en place à l'entrée de la cité de la Grande Borne. Le maire centriste de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain, ne regrette pas sa mise en place.
C'est une caméra qui a été installée par la ville de Viry-Châtillon pour justement éviter les carjackings qui avaient lieu depuis 5 ou 6 mois. Du jour où cette caméra a été installée, plus plus aucune agression n'a eu lieu. Ce qui veut dire quand même que la caméra a rempli pleinement son rôle. Ce n'est que 4 ou 5 mois plus tard qu'ils ont, à 2 ou 3 reprises d'abord, essayé de détruire cette caméra, puis ensuite passer à l'acte contre ces policiers. On n'imagine jamais que des hommes puissent essayer de tuer d'autres hommes ou d'autres femmes. C'est horrible d'en arriver à des points où on fait une tentative d'assassinat contre des hommes. Je veux dire, c'est semblable, quoi qu'il arrive. On ne peut pas jouer à ça, c'est pas un jeu, c'est juste une tentative d'assassinat et c'est juste inadmissible.
Voilà pour ce procès suivi par France Inter dans l'actualité encore. La police des polices saisie après l'évasion à Marseille. 4 détenus qui se trouvaient dans un fourgon de police entre le tribunal et la prison se sont fait la belle hier soir. L'automne, période de grosses intempéries régulièrement en France. Fin de l'alerte orange en cette mi-journée, mais ce matin encore le vent a soufflé très fort à Arles, pont de Croc. Des mobilhomes retournés dans un camping, 150 habitations touchées, 3 blessés légers et des sinistrés accueillis dans un gymnase. Il y a un an, le département de l'Aude payait un très lourd tribut aux intempéries. 15 morts, 7000 habitations inondées. Parmi les villes sinistrées, il y avait Trèbes. Comment s'organise la reconstruction un an après? Reportage France Inter, Stéphane Iglesis.
À Villegagnac, les maisons aux trous béants sont soit cachées par une palissade infranchissable vers la place de l'église, soit ouvertes aux quatre vents dans le vide en attente de démolition. Michel Proust, maire de Villegagnac.
L'idée, c'est que l'eau puisse s'écouler plus facilement, donc c'est pour cette raison que le pont va être différent, donc il devra laisser passer 250 mètres cubes secondes d'eau. En aval du pont, la rivière maintenant qui est passée de 3 à 5 mètres à 40 mètres, nous allons conserver cette largeur d'écoulement. Le syndicat aussi va racheter quelques terrains et quelques bouts de jardin de manière à pouvoir conserver cet espace. Et en amont également aussi, les quatre pavillons qui vont être détruits de manière aussi à ce que l'eau puisse s'étaler et n'arrive plus en vague comme elle est arrivée.
À Trèbes aussi, les erreurs du passé seront corrigées. Éric Ménassi, maire de Trèbes.
Donc sur Trèbes, nous avons une petite trentaine de maisons qui vont être démolies. Et il va y avoir des travaux, vous l'avez sans doute vu, sur le lit du fleuve où les berges vont être élargies, végétalisées, parce que nous savons aussi maintenant qu'un enrochement accélère la vitesse de l'eau et que lorsqu'il y a des crues aussi importantes, le plus difficile c'est de ralentir la vitesse de l'eau et la végétalisation va ralentir cette vitesse de l'eau.
Point d'orgue de cette visite, un hommage civil aux victimes, car ici personne ne veut et ne peut oublier. Toulouse, Stéphanie Iglesis, France Inter.
Voilà pour ce reportage à Trèbes et Villegagnac. Vous l'aurez compris, 2 ministres seront dans l'Aude cet après-midi. Ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et celle de l'Environnement Elisabeth Borne. 2 migrants irakiens retrouvés morts hier sur la plage du Touquet. Le premier est un adolescent, 17 ans. Le second, un jeune de 22 ans. Ce sont des passants qui ont découvert les corps en fin de matinée, puis l'après-midi à Stella-Plage. Ce sont les premiers migrants retrouvés morts sur ces côtes. Les 3 et 4e en Manche cette année. Raphaël Abiri-Vicente.
Les 2 jeunes migrants avaient embarqué dans des petites embarcations sans moteur. Depuis 2018, le nombre de tentatives de traversée de la Manche explose. Fin août, près de 1500 migrants ont tenté leur chance, soit presque 3 fois le nombre des tentatives de l'année 2018. Et ça va continuer, assure François Guénoc, le vice-président de l'Auberge des migrants.
On peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres tentatives, avec donc d'autres morts. On n'est pas sur les chiffres de la Méditerranée en termes de victimes, mais on sait que ces traversées ici de la Manche sont quand même dangereuses.
Pour stopper ces drames, l'humanitaire en appelle donc à une réaction urgente de l'État.
Reprendre les négociations avec la Grande-Bretagne et de permettre que la demande de protection, souvent légitime, puisse être examinée. Pourquoi pas à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, pourquoi pas ici, dans un consulat sur la côte. Il faut ouvrir des voies légales d'accès à la Grande-Bretagne.
Cet été, une jeune iranienne et un irakien de 48 ans, partis en petite embarcation et à la nage de notre région, avaient été retrouvés morts sur des plages aux Pays-Bas et en Belgique.
Et par ailleurs, 8 migrants ont été secourus hier en fin de matinée sur une plage près de Calais et conduits dans un centre d'accueil. Le parquet n'établit aucun lien entre les deux affaires à ce stade. Les désaccords latents visent à la crise publique dans la majorité à propos des mamans voilées lors des sorties scolaires. Le point de départ, c'est l'attitude très largement condamnée d'un élu d'extrême droite au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Julien Odoul. Il s'en est pris à une femme voilée accompagnant des enfants dans l'assistance. Commentaire du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, la loi n'interdit pas aux femmes voilées d'accompagner des enfants, mais le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société. Pour le député En Marche Aurélien Taché, qui incarne l'aile gauche de la majorité, les propos du ministre amènent de la confusion. Ils peuvent être récupérés par l'élu d'extrême droite. Colère de Blanquer qui demande le passage du député devant la commission des conflits de la République En Marche. Bref, sur un sujet ultra sensible, la majorité est fracturée. À l'Assemblée nationale pour France Inter, Karine Bécard.
Oui, vous avez aujourd'hui deux camps qui s'affrontent au sein du gouvernement et au sein de la majorité. D'un côté, vous avez des députés qui soutiennent leur collègue Aurélien Taché, mais qui défendent surtout le texte de loi de 1905 sur la laïcité. Pas question donc pour Guillaume Chiche de voir sanctionner Aurélien Taché.
Si on commence à exclure des personnes pour leur expression et leur orientation politique, je crois tout simplement que c'est le début de la fin pour notre mouvement politique, pour le groupe La République En Marche et dans l'interaction qu'on peut avoir avec l'opinion publique.
Et puis de l'autre côté, vous avez le ministre Blanquer, Marlène Schiappa aussi, qui estime qu'au-delà d'une loi, les politiques sont là pour faire évoluer la société. Un avis partagé par la députée Olivia Grégoire, qui considère donc que son collègue Taché est allé un petit peu trop loin une nouvelle fois.
Je pense qu'il y a des mots sur lesquels il faut être un peu vigilant. Et je pense encore une fois qu'Aurélien a été un peu virulent. Donc à voir si ça se calme ou s'il y a vraiment matière à saisir la commission. Quoi qu'il advienne, connaissant Stanislas Guérini, j'ai confiance en lui.
Le patron du parti a finalement tranché en faveur d'une cellule de médiation en attendant quel camp est majoritaire au sein de La République En Marche. L'aile gauche, probablement, mais beaucoup surtout préfèrent ne pas s'emparer du sujet, trop compliqué pour ces novices en politique. Ce matin, le groupe de la majorité qui se réunit tous les mardis n'a abordé ce sujet de grande tension qu'en toute fin de réunion.
Voilà pour ces précisions de Karine Bécard. Autre débat très sensible, l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de lesbiennes. C'est ce soir que le projet de loi doit être adopté à l'Assemblée.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
L'invité de ce journal est dans un tourbillon. Prix Nobel d'économie, la quatrième venue de France, la deuxième femme, la plus jeune, et beaucoup, beaucoup de sollicitations médiatiques depuis hier. Esther Duflo, entretien enregistré il y a une heure sur France Inter. Il était 6h du matin pour elle à Boston. La première question que je lui ai posée, est-ce que le jury du Nobel a récompensé hier, c'est son approche expérimentale du terrain dans la lutte contre la pauvreté. Alors, en quoi consiste cette approche ?
Ça consiste déjà à pas essayer de résoudre tout le problème d'un coup, pourquoi les gens sont pauvres et comment faire pour qu'ils soient pas pauvres, mais à le couper en plein de petites questions qui sont beaucoup plus précises et auxquelles on peut répondre, et en particulier auxquelles on peut répondre scientifiquement. Et ce qu'on fait dans notre travail, c'est d'essayer de mettre en place des essais randomisés, très similaires aux essais cliniques, pour étudier qu'est-ce qui marche pas et pourquoi dans la lutte contre la pauvreté.
Au fond, c'est comme quand on teste un nouveau médicament, on distribue le nouveau médicament à un groupe de cobayes et un placebo à un autre groupe, et puis on compare au bout d'un certain temps le résultat. À quelle politique l'avez-vous appliqué ? Quelques exemples concrets, Esther Duflo ?
En fait, un exemple qui vient de Michael Kremer, qui est un des lauréats, qui est la première expérience randomisée qui a été faite en développement. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une centaine d'écoles, et dans 50 des écoles, leur a distribué les manuels scolaires. Et l'idée à l'époque, c'était que c'était évident que les manuels scolaires allaient faire une grande différence. Mais en fait, quand il l'a fait, donc il a distribué les manuels scolaires dans 50 écoles choisies au hasard. Les autres écoles ont continué comme d'habitude. Et ce qu'il s'est rendu compte après un an, c'est que les enfants n'avaient rien appris dans ces manuels scolaires. Donc il était déçu au départ. Mais en fait, parfois c'est très utile d'apprendre que quelque chose ne marche pas. Parce que ça les fait réfléchir sur pourquoi ça n'avait pas marché. Et il s'est rendu compte que ça n'avait pas marché parce que les enfants ne savaient pas lire l'anglais dans lequel les livres, le programme scolaire est en anglais au Kenya. Mais pour les enfants, c'est beaucoup trop loin. Et cette expérience a été la première d'un long parcours qui nous a permis, de expérience par expérience, de mieux comprendre quel était le vrai problème de l'éducation dans un pays comme le Kenya ou dans un pays comme l'Inde, qui est que les programmes scolaires ne sont pas du tout au niveau des enfants. Et ce qu'on a fait, ce que j'ai pu faire par la suite, pour donner un autre exemple d'expérience aléatoire qui cette fois a donné des bons résultats, ce que j'ai pu faire par la suite, c'est de travailler avec une ONG indienne pour proposer du soutien scolaire, simplement, aux enfants qui étaient en difficulté au niveau CE2, CM1. Pareil, on choisit un échantillon de 120 écoles, dans 60 au hasard, le soutien scolaire a été introduit, et on se rend compte que ça fait une différence énorme.
Au fond, c'est l'idée que bien souvent, on lance des politiques et qu'elles ne sont pas évaluées. Et ce qu'il faut dire, c'est que lorsque vous avez lancé ça dans le domaine de l'économie, ça n'était pas du tout pratiqué. Aujourd'hui, ça semble évident. À l'époque, ça n'était pas du tout pratiqué.
quand on a commencé à faire ce genre de choses, maintenant il y a presque 20 ans, c'était regardé comme quelque chose de complètement farfelu. L'idée qu'on puisse faire des expériences aléatoires, pas avec des médicaments, mais avec des programmes sociaux, c'était vu comme très étrange. Pourtant, la vérité, c'est que la plupart des politiques économiques sont basées essentiellement sur des intuitions et très rarement sur des connaissances profondes de quels sont vraiment les problèmes et ensuite ne sont jamais évaluées. Donc on ne sait pas si elles sont efficaces ou pas.
Est-ce que vous avez développé ou songé à développer des applications en France de cette méthode ou en Europe à tout le moins ?
Oui, il y a donc le laboratoire que nous dirigeons et que nous avons cofondé avec Abhijit Banerjee, aussi un lauréat du prix, s'appelle JPAL, ou Poverty Action Lab. Et JPAL a une antenne en Europe, à Paris, qui s'appelle JPAL Europe. Et JPAL Europe fait beaucoup de projets en France avec des chercheurs français sur des sujets allant de l'économie du travail, par exemple, quelles méthodes sont réellement efficaces pour aider les chômeurs à retrouver un emploi ou pour aider les entreprises à recruter quelqu'un. Des applications dans l'éducation, par exemple, comment impliquer mieux les parents dans l'institution scolaire et est-ce que les faire venir à l'école, tout simplement, quelques fois par an, fait une différence. C'est deux exemples parmi des dizaines d'expériences qui ont eu lieu en France. Et aujourd'hui, JPAL Europe a lancé une grande initiative sur l'inclusion sociale qui, partout en Europe et en particulier en France, va réfléchir sur les meilleurs moyens d'intégrer les migrants et les réfugiés qui viennent dans notre pays.
Vous êtes la deuxième femme seulement à recevoir le prix. C'est une discipline encore très masculine que celle des économistes. Comment ça se manifeste, ce primat accordé aux hommes chez les économistes ?
C'est plus qu'un primat accordé aux hommes. En fait, il y a très peu de femmes et de jeunes filles et de jeunes femmes en économie à tous les niveaux. C'est-à-dire peu de filles choisissent l'économie à l'université. Parmi celles qui ont choisi l'économie à l'université, peu d'entre elles décident de faire une thèse. Parmi celles qui font une thèse, peu d'entre elles restent dans la profession académique et deviennent professeurs, etc. Donc en fait, à tous les niveaux, depuis le début de la chaîne, il y a trop peu de filles en économie et elles sont trop à être écartées du chemin au lieu de continuer la progression dans la recherche économique.
Et alors, quel discours ?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons.
Allez-y.
Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Une raison, c'est une question de culture, honnêtement. C'est-à-dire la culture dans la profession économique est un peu agressive, de manière souvent pas particulièrement nécessaire, ce qui convient pas forcément à tout le monde, et en particulier que beaucoup de femmes n'aiment pas, auxquelles beaucoup de femmes n'aiment pas particulièrement participer. Et l'autre raison, c'est justement les sujets que l'économie traite. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui voient l'économie comme une discipline de financiers qui portent des cravates et que ça ne les intéresse juste pas du tout. Moi-même, j'ai découvert l'économie et ce que pouvait faire l'économie, en fait, complètement par hasard. Quand j'ai compris, quand je passais un an en Russie, j'ai compris que les économistes avaient voix au chapitre sur des décisions politiques importantes qui avaient vraiment de l'effet sur les gens, que je me suis dit, il faut que je fasse de l'économie. Mais avant, c'était pas du tout ma perspective. Ça me serait pas venu l'idée. Et je pense que c'est un peu ça qu'il faut changer pour faire entrer plus de jeunes filles en économie et bien sûr changer la culture pour qu'elle reste.
Esther Duflo, est-ce que vous avez eu Emmanuel Macron depuis hier ?
Personnellement au téléphone, non.
Est-ce que vous avez conseillé Obama ? Est-ce que vous concevez votre rôle comme possiblement celui de donner des conseils au président de la République ?
Mon travail est destiné, si possible, à informer les politiques économiques. Aujourd'hui, beaucoup de nos travaux se font en collaboration avec des gouvernements. Une partie de mon travail, c'est le conseil à des administrations. Pas forcément au niveau présidentiel, mais pour être honnête, beaucoup de décisions qui impactent réellement la vie des gens ne se passent pas au niveau présidentiel.
La prix Nobel d'économie Esther Duflo, entretien enregistré il y a une heure et elle a donné leur nom au fil de l'entretien, mais je les redonne, les deux coloréats de ce Nobel, Michael Kremer et Abhijit Banerjee. Dans 16 jours, théoriquement, le Brexit, dans 2 jours, ça c'est sûr, un sommet européen dont on n'ose pas dire qu'il est celui de la dernière chance. Plus les jours et même plus les heures passent, plus le moindre mot, la moindre initiative de Michel Barnier, le négociateur européen, est scruté à la loupe. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Angélique, en direct de Bruxelles. Michel Barnier, vous êtes un point ce matin des négociations avec les ministres des Affaires européennes des 27 pays européens. Tout est encore possible, c'est ce qu'on retient ?
Oui, car les négociations de dernière minute sont constructives. Ça, on l'a bien compris. Les Britanniques ont renoncé jeudi dernier à certaines de leurs lignes rouges. Mais un accord n'est tout de même pas encore finalisé. Et leur tourne, a indiqué tout à l'heure Michel Barnier.
Même si obtenir un accord sera difficile, de plus en plus difficile, c'est encore possible cette semaine. Évidemment, tout accord doit convenir à tout le monde. Il est grand temps de coucher par écrit les bonnes intentions dans un texte juridique.
Une précision de taille, car la clé de ces négociations réside en fait dans la volonté réelle des Britanniques de trouver une porte de sortie. Ce qui a été promis verbalement pour éviter par exemple des contrôles douaniers sur l'île d'Irlande sera-t-il accepté par écrit, précisément avec les garanties exigées par les 27 et réciproquement d'ailleurs. Eh bien à ce stade, les engagements sont encore insuffisants, a dit ce matin Michel Barnier. Il faudrait un accord précis, dit-il, ce soir au plus tard, en vue d'une adoption par les chefs d'État et de gouvernement jeudi, car l'objectif c'est d'éviter que la négociation ne se poursuivre lors du sommet. Personne n'y tient côté européen, car d'autres dossiers majeurs, comme le futur budget, sont à l'agenda. Alors en cas d'échec, eh bien, soit les discussions finalement continuent, puis un autre sommet d'ici la fin du mois est nécessaire, soit il y a rupture des négociations ce soir. Les 27 devraient alors trancher sur un éventuel nouveau report du Brexit, à condition qu'il soit demandé par Londres. Report qui ne serait acceptable pour la France qu'en cas de nouvelles élections ou de nouveaux référendums, a rappelé tout à l'heure la ministre française des Affaires européennes, Amélie de Montchalin.
Merci. Merci Angélique Bois en direct de Bruxelles. Et Paris veut encore espérer, Paris qui salue à l'instant un élan positif à propos de ces négociations et qui espère l'annonce d'un accord dès ce soir. Il y a 6 jours, la Turquie lançait son offensive contre les Kurdes au nord de la Syrie. Une fois de plus, ces Kurdes de Syrie plongés dans la tourmente. Reportage de Mathieu Mondoloni dans un village côté turc. C'est là qu'il s'est rendu pour parler de ces Kurdes meurtris par des années de conflit.
Razal a 15 ans, toujours ado et pas encore adulte, un âge frontière comme celle qu'elle regarde depuis le toit de sa maison. De l'autre côté des champs de maïs, c'est le Kurdistan syrien et la guerre qui s'y joue. Moi je n'ai pas peur pour nous, dit-elle, j'ai peur pour les enfants qui meurent là-bas. Parmi eux, ses cousins qu'elle n'a jamais rencontrés, mais dont son père Ali lui a souvent parlé.
Avant on était unis, mais un jour ils ont décidé que la ligne de chemin de fer était une frontière entre les deux pays. Et plus tard, ils ont posé des mines tout le long, la moitié de notre famille est restée là-bas, et nous de ce côté, chacun sur sa terre.
Il dit penser à eux, pris sous les bombardements de l'armée d'Erdogan, et s'inquiète de l'accord conclu entre les YPG kurdes et le régime syrien.
Que ce soit la Turquie ou le régime de Bachar el-Assad, ça ne change rien. L'un comme l'autre, ils sont contre nous. Un jour, il y aura un État kurde. Alors notre drapeau flottera dans le ciel. Nous, on ne le verra peut-être pas. Mais nos enfants, j'espère que si.
Alice détourne, il ne veut pas que sa fille le voie pleurer. J'espère qu'un jour, on pourra le voir, ce pays. Ce serait bien, dit-elle, avec papa, avec maman, tous ensemble.
Voilà pour ce reportage de Mathieu Mondoloni. Dernière nouvelle du front, les combats font rage dans la ville de Ras al Aïn, entre Turcs et Kurdes. Londres suspend les exportations d'armes vers la Turquie. Sanctions économiques également. Volkswagen suspend pour l'instant la décision sur l'ouverture d'une nouvelle usine en Turquie. Tout cela à cause de l'offensive en Syrie. Et puis la promesse du président Erdogan. Il assure qu'il empêchera les combattants de l'organisation État islamique de quitter la Syrie. 13h23 sur France Inter, c'est l'heure de la chronique santé de Daniel Messager, comme chaque mardi dans ce journal. Bonjour Daniel.
Bonjour Bruno.
On parle viande aujourd'hui pour faire le point sur la consommation qui se modifie et sur des études qui sèment la confusion aussi.
Alors oui, la consommation a changé, on mange différemment de la viande et on en mange moins. Une étude du Crédoc montrait l'an dernier que la consommation avait baissé de 12% en 10 ans. C'est la viande rouge qui en fait les frais. L'alimentation carnée se réoriente surtout vers la volaille et c'est une baisse qui concerne toutes les catégories sociales et toutes les tranches d'âge, avec des variantes toutefois baissent plus fortes chez les cadres, mais consommation de viande quand même encore bien réelle chez les jeunes via les hamburgers et autres restaurations rapides.
Est-ce que cette baisse est due surtout à des recommandations liées à la santé ?
À la santé et de plus en plus à l'environnement. À la santé, avec les recommandations qu'une moindre consommation avait des bénéfices sur la survenue de cancers, car la viande rouge est classée comme probablement cancérogène pour l'homme, montrant des associations avec le cancer colorectal. Pour la viande rouge transformée, c'est-à-dire lors de la cuisson avec des additifs, c'est plus appuyé encore. Cancérogène pour l'homme, là, il n'y a plus de probable. Pour autant, on ne peut pas dire que c'est comme le tabac. Ainsi, à titre de comparaison, on estime que les régimes riches en viande pourraient être responsables de 50 000 décès par an dans le monde, à mettre en parallèle avec 1 million de morts dus au tabac.
Baisse de consommation, vous disiez, liée à l'environnement aussi ?
Alors, Terra Nova, par exemple, disait en 2017 que l'élevage était responsable de 15% des émissions de CO2. Un kilo de viande bovine équivaut à 27 kilos de gaz à effet de serre. Pour le poulet, c'est à peine 7 kilos. C'est des chiffres que tout le monde ne connaît sans doute pas par cœur, mais les consommateurs retiennent que l'impact existe.
Et les études vont globalement dans le même sens, sauf récemment des articles qui rejetaient tout lien entre viande, cancer et maladies cardiovasculaires.
Ouais, à la surprise générale, il faut bien le dire. Publié début octobre dans Annals of Internal Medicine, ces articles concluaient que non, il ne faut pas manger moins de viande, tout va bien. Et bien dans le monde, aujourd'hui, on apprend que certains de ces chercheurs avaient un gros lien d'intérêt avec des industriels de l'élevage. Ainsi, l'un d'entre eux avait reçu pour son université plusieurs millions de dollars sans jamais signaler de conflit d'intérêt. Donc une étude tellement à contre-courant qu'elle ne pouvait que faire douter. Alors, aujourd'hui, la tendance raisonnable, c'est donc de manger moins de viande, mais de meilleure qualité, et ce sera un bénéfice pour sa santé et pour la planète.
Merci Daniel Messager, chronique à retrouver sur franceinter.fr. Cette dernière minute, un incendie en cours dans une tour d'habitation de plus de 12 étages à Rosny-sous-Bois, en banlieue parisienne, quartier du Pré-Gentil. Information de nos confrères de France Bleu Paris et France Info. Et puis une panne informatique à l'aéroport d'Orly ce mardi. Il y a des retards, que ce soit au décollage ou à l'atterrissage. Le Tour de France 2020 pourra-t-il être aussi palpitant que l'édition de l'été dernier? Ça commence avec un parcours bien dessiné. C'est cela qui était présenté ce matin au Palais des Congrès de Paris. La carte du Tour de France 2020. Fabrice Rigobert, comme promis, on vous retrouve. Départ de Nice. Ensuite, Fabrice, vous qui êtes en direct du Palais des Congrès, ce sera un tour montagneux et piégeux.
29 cols à escalader, Bruno, les 5 massifs montagneux de l'Hexagone visités, pour certains deux fois comme le massif central et les Alpes pour commencer, avec 4000 mètres de dénivelé le deuxième jour autour de Nice, Orcières-Merlette 48 heures plus tard pour une première arrivée au sommet. Le massif central une première fois avec Montégoal dans les Cévennes sur la route des Pyrénées pour deux étapes pyrénéennes entre Cazères et les Donvielles et Pau la Reims. Le massif central encore une fois avec l'étape de Puy-Marie, l'étape des volcans avec le col de Néronne, le Jura avec une arrivée au sommet du Grand Colombier, de nouveau avec les routes du Vercors pour les Alpes en direction de Villard-de-Lans, et puis une deuxième journée de repos à Grenoble, les Alpes pour continuer avec une arrivée inédite au col de la Lauze, au-dessus de Méribel, et puis la Roche-sur-Foron avec le plateau des Glières, pas loin, et enfin les Vosges pour le seul contre-la-montre du Tour, 35 km jusqu'au sommet de la planche des Belles-Filles. Thibaut Pinot y sera à domicile.
Et au-delà de la montagne, Fabrice, il y aura comme chaque année quelques jolies cartes postales.
Oui, avec l'étape des îles entre Oléron et Ré via La Rochelle où le tour n'est plus allé depuis 25 ans, le lendemain de la première journée de repos. L'étape Jacques Chirac jusqu'à Charan, Saran devant le château de Bity et le musée Jacques Chirac. L'étape des volcans avec le puits de Sancy, 7 ascensions classées dont le col de Néronne jusqu'à Puy-Marie des pentes à 15%. Et puis le col de la Lauze, jamais emprunté car goudronné cette année dans les Alpes pour les cyclotouristes, avec 7 derniers kilomètres et des passages à 20% sur une route découverte, ancien chemin d'exploitation des remontées mécaniques. Au sommet, un panorama à faire rêver, 360 degrés sur les sommets de la Vanoise et puis au loin, là-bas, le Mont Blanc.
Merci Fabrice Rigobert. Et c'est le 27 juin, un peu plus tôt que d'habitude, que commencera ce tour donc sur la promenade des Anglais.